Très heureux d'être avec vous ce matin encore et on va étudier dans l'évangile de Jean encore le chapitre 15 ensemble. Pour être au divin cep attaché. J'aimerais faire la lecture des versets 15, des versets 1er jusqu'au verset 17. Jean 15, 1 à 17. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, pour la grâce, Seigneur, que tu nous as fait de te connaître, Seigneur. Nous voulons encore étudier cette parole ce matin avec l'appui de ton Saint-Esprit. Accorde-nous, Seigneur, toute l'attention, Seigneur, que mérite ta parole et aide-nous à la comprendre et puis à la pratiquer, Seigneur, à l'appliquer à nos cœurs. Béni sois-tu encore par Jésus-Christ. Amen. Pourquoi plante-t-on une vigne Pour faire des planches ou du bois de construction? Non, il n'y a rien de droit dans un cep de vigne. Est-ce que c'est pour avoir du bois de chauffage? Non, un cep, même après des années, ça reste un petit morceau de bois. Non, on plante une vigne pour son fruit. La vigne produit un fruit délicieux, le raisin. Et c'est pourquoi la France est couverte de vignes. Presque chaque région a ses vignes, son vin, son appellation. Et ça fait notre fierté. Le psaume 80 qu'on a lu tout à l'heure et d'autres passages dans le prophète Ésaïe notamment et en Jérémie et encore d'autres dans l'Ancien Testament ont identifié le peuple d'Israël à la vigne de Dieu. Il l'a arrachée de l'Égypte et puis il l'a plantée dans un bon pays semblable à un verger et puis il attendait que cette vigne porte du fruit. Du bon fruit, mais elle en a porté du mauvais. Aussi, Dieu l'a livrée à ses ennemis, elle a été dévastée, arrachée, exilée. Et le psaume 80 dit aussi et annonce la venue d'un autre cep. Le fils de l'homme est-il appelé ici. Le fils de l'homme. Ça, c'est l'expression préférée de Jésus pour parler de lui-même. Et puis ici, dans notre passage, il dit « Je suis le vrai cep ». Le vrai cep. Celui sur lequel on peut porter du fruit. Si nous sommes en Christ, nous allons porter du fruit. Tout le but de Dieu, c'était cela, que l'on porte du fruit. Ça n'a pas marché avant, jusqu'à ce que nous soyons en Jésus-Christ et que nous puissions porter du fruit. Il termine le psaume 80 avec ce verset 19. « Alors nous n'irons plus loin de toi, tu nous feras revivre et nous te prierons. » Et c'est exactement le projet de Dieu, nous avoir planté, greffé sur le cep, pour que nous puissions porter du fruit. Et le verset 16 de notre passage dit ici, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Quelle une promesse extraordinaire! Il nous a choisis. Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Pour que nous portions du fruit. Pour que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il nous a choisis, il nous a établis dans la foi pour que nous prions. Et c'est cela, porter du fruit, c'est prier et rencontrer Dieu, retrouver Dieu, être lié avec au cep. C'est recevoir dans la prière au nom de Jésus. Il fait de nous, au fond, ses collaborateurs. Ses ouvriers avec lui dans la prière. Le verset 7 et 8 dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voilà, le Père est glorifié parce que nous participons à la même œuvre que le Seigneur Jésus-Christ. Le disciple, il porte du fruit. Dans celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche, hein, verset 2. Il n'y a que deux possibilités. Il y a porter du fruit et être émondé, ne pas porter du fruit et brûler. Et ce matin, j'aimerais reprendre ce verset 7 et essayer de développer cette pensée du Seigneur. Comment est-ce possible de demeurer en Christ, de porter du fruit? Eh bien, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Regardons tout d'abord si vous demeurez en moi. Ça ne vous a pas échappé que le mot ici pour demeurer revient fréquemment dans notre passage, plus de 13 fois je crois. Il est aussi traduit par subsister, rester, attendre et bien plus souvent encore demeurer. Et ça signifie que la relation avec Jésus-Christ est une relation persistante. Si elle n'est pas persistante, elle n'est pas véritable. Si nous voulons porter du fruit, il faut demeurer en Christ. Et l'expression de demeurer, ça décrit la conversion véritable à Jésus-Christ, son attachement à Christ. Parfois, on a une théologie de la conversion un peu faible. On est enclin à penser que dès lors qu'une personne a pris une décision, elle est sauvée et un point, c'est tout. Mais une conversion authentique ne se prouve pas par la rapidité de la décision prise, mais par les fruits à long terme. Il y a bien des passages dans les Écritures qui nous en parlent. Le chapitre 4 de Marc et chapitre 13 de Matthieu évoquent le semeur et les terrains. La semence, la parole de Dieu est semée dans les cœurs et tantôt elle tombe sur le chemin et elle est hop, dévorée immédiatement par les oiseaux. Elle ne demeure pas. Tantôt elle tombe au milieu d'un terrain pierreux, alors elle pousse rapidement. Et puis, il y a une épreuve, une chaleur, une difficulté. Et puis, faute de racines, elle dépérit immédiatement. Parfois, elle tombe dans les épines. Oh, elle croit un temps. Et puis, elle est étouffée par les épines, par les passions de la vie. Et puis, elle ne porte pas de fruits. Et puis, tantôt, elle tombe dans la bonne terre. Et puis, elle porte du fruit. 30, 60, 100 pour un. C'est très important, cette pensée-là. Ça signifie que on peut croire dans le sens d'acquiescer intellectuellement. On peut presque subir avec succès les tests auxquels une église qui a du discernement peut soumettre une personne. On peut même recevoir le baptême. Et puis, ne pas porter de fruits, ne pas être véritablement greffé sur Christ, attaché à Christ, demeuré à lui. Peut-être un sarment qui a commencé à se développer, mais à un certain moment, il le rejette. Il rejette la vérité, demeure stérile, cède à l'opposition. Il y avait au début de l'évangile de Jean, on a vu des hommes qui ont cru en Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Et la Bible dit dans le verset suivant que Jésus, eux, ne se fiait pas en eux, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait au fond du cœur. Ce sont les mêmes qui ont crié « Crucifie-le » à plus tard. Le croyant, c'est celui qui demeure attaché. Vous vous rendez compte, les apôtres ont accepté Judas, et personne ne soupçonnait un seul instant qu'il trahirait odieusement Jésus. Et voilà pourquoi Jésus évoque le sarment qui ne porte pas de fruits et qui est retranché et brûlé. Le croyant, c'est celui qui demeure à Christ, qui donc porte du fruit. Il n'est pas parfait dans son obéissance. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît aucune lutte, aucune tentation, aucune chute. Non, il connaît aussi tout cela. Et c'est pour cela aussi qu'il doit être émondé, taillé pour porter plus de fruits encore. Versets 4 et 5, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Il le peut seulement s'il demeure attaché au cep. Et ça, il en est ainsi, hein, du croyant. Il ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché à Jésus-Christ. Porter du fruit, ça n'est pas le privilège de quelques hommes et femmes intelligents ou doués. C'est le privilège de chaque chrétien, de chaque disciple, de chaque personne qui demeure en Christ. La prière commence lorsque l'on a conscience que de nous-mêmes, on est incapable de faire l'œuvre. Alors, nous prions. Tant que l'on pense être capable, nous ne prions pas. Et demeurer en Christ, c'est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le fruit, c'est quoi en réalité? Le fruit, c'est pas le succès que l'on peut avoir dans ses études ou dans sa vie professionnelle. Le fruit, c'est pas la foule d'amis Facebook que l'on a, ou ça n'est pas la famille en or que l'on a, ça n'est pas la réussite sociale ou la bonne santé. Dans ce cas, l'apôtre Paul n'aurait pas porté de fruit. Le fruit, c'est notre conformité à Jésus-Christ. Le fruit, c'est notre transformation à l'image de Jésus-Christ. Le fruit, c'est le fruit de l'esprit, celui qui vivifie notre être tout entier. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quand la vie du cep coule, la vie du cep coule en nous, eh bien, elle produit ce qui est propre au cep. Elle reflète le caractère de Jésus-Christ. Le fruit, c'est une vie qui célèbre la gloire de Dieu. Le fruit, c'est une vie qui aime jusqu'au sacrifice. Le fruit, c'est une vie qui dépend du Père, hein, dans la prière. C'est aussi, bien sûr, un témoignage efficace dans l'évangélisation, dans la mission. Hein, le verset 16, il dit « Je vous ai choisi afin que vous alliez partager la bonne nouvelle et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour l'éternité. Et puis il dit que mes paroles demeurent en vous. Et si mes paroles demeurent en vous ? Il y a une relation étroite entre le fait de demeurer en Christ et que sa parole demeure en nous. Ce sont les expressions équivalentes presque ou interchangeables. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas toujours exaucées ? Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées ? Or, nous ne prions pas selon sa volonté, probablement. Or, la connaissance de sa volonté vient par sa parole. Peut-être nous conservons un péché ou une attitude dans notre cœur, dans notre vie, qui ne plaît pas à Dieu et qui l'empêche de nous exaucer. Or, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va nous transformer. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées ? Parce que nous ne croyons pas Dieu. Nous ne le prions pas avec foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi est-ce que nos prières ne sont pas exaucées ? Mais parce que nous ne persévérons pas, peut-être. Or, tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Voyez-vous, La parole est intimement liée à notre vie de prière. Quand nous prions sans méditer la parole de Dieu, nous faisons quoi ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait simplement notre liste de courses. J'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça. La réalité, mes frères et sœurs, c'est que nos cœurs naturels recherchent le confort, recherchent le succès, recherche la santé, la vie sentimentale. Et donc, si nous prions sans méditer la parole de Dieu, nos priorités sont souvent mauvaises. Nous ne nous conformons pas à sa volonté. Et de ce fait, nous ne sommes pas exaucés. Et quand nous ne sommes pas exaucés, nous sommes frustrés, déçus. Nous sommes naturellement centrés sur nous-mêmes. Et du coup, nous sommes influencés par la pensée de ce monde. Et nous ne sommes pas prêts à prier ce que Dieu veut exaucer. Quand nous prions en méditant la parole, par contre, nous prions avec foi, nous saisissons les promesses de Dieu. Nous tirons le son des histoires et des personnages de la Bible. C'est pourquoi Jésus dit, « Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Jésus explique que la relation, au fond, que nous avons avec lui, s'entretient par la parole. Il est la parole faite chair. Quand j'étudie, quand je médite la parole, c'est la personne de Jésus-Christ qui se déverse dans mon âme, dans mon cœur. La méditation des Écritures dirige mes pensées et nos sentiments vers Dieu. La parole nous révèle la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a nécessairement besoin de méditer la parole. Vous avez déjà remarqué que c'est très à la mode de méditer. J'ai remarqué qu'il existe même des bars à méditation. Des bars à méditation, ça m'a surpris. Certainement, après plusieurs verres, on commence à méditer. Mais les gens qui veulent méditer luttent avec quelque chose de terrible. Ce sont leurs pensées qui vagabondent. Et peut-être que, d'une certaine manière, vous connaissez ça quand vous voulez prier. Et hop, vous voulez prier, et puis hop, c'est la liste de courses qui revient, et les enfants à aller chercher. Pour méditer, il est préconisé de débuter en fixant son attention sur sa respiration. Vous prenez une grande respiration. Et puis, Vous expirez lentement. Ne le faites pas en même temps que moi parce que vous allez dormir. Et puis vous arrêtez juste au moment à l'instant là, vous focalisez votre attention sur le moment où vous allez reprendre cette respiration. Ensuite, L'entraînement consiste à prendre conscience des différentes parties de votre corps qui sont en contact avec le sol, vos pieds, ou avec votre chaise si vous êtes assis. Ne le faites pas, encore une fois, vous allez dormir. Vous voyez, la technique, c'est placer son esprit dans l'instant présent, se plonger dans l'observation peut-être d'un objet qui vous fascine, comme la flamme d'une bougie. Tout ça pour essayer de méditer. Et en fait, quand on fait ça, on médite sur quoi ? On médite sur soi. Et quand vous méditez sur vous-même, vous avez mal là. Et puis vous avez tel souci. Et votre méditation, elle est nulle. Mais ce que l'on peut retirer de cela, c'est que la méditation a besoin d'un support. Et ce support, c'est la parole de Dieu. Si vous méditez sur autre chose que sur la parole de Dieu, vous allez vous égarer. Si vous laissez vos pensées naturelles vous conduire, il est fort à redouter qu'elles vous mèneront qu'à vous-même, à vos préoccupations, à vos problèmes, et puis à vos désirs insatisfaits ou à vos craintes. Et donc, il faut lutter avec cette pensée-là et ramener toute notre pensée sur sa parole. David, dans le psaume 42, au verset 6 et au verset 12, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon Dieu et mon salut. » Ici, David, il lutte avec ses pensées de découragement, d'abattement. Naturellement, toute son âme est dans le désespoir. Et il dit « Non, pourquoi t'as battu mon âme ? Ramène-toi et regarde à Dieu. » Et espère encore, fixe ton attention sur lui, et tu vas retrouver toute l'espérance dont tu as besoin. La méditation dont nous avons besoin, elle est centrée sur la gloire de Dieu et sur sa grâce. C'est cela dont nous avons besoin. Alors, comment faire pour méditer la parole de Dieu ? Peut-être il faut repasser quelques versets. Je priais avec un frère ce matin. Sa première prière, c'était « Seigneur, Abraham, en Genèse, il est appelé ton ami. » Et puis, dans la prière, il priait pour Sodome et Gomorre, là. Pour quelques justes. Et puis, il a dit « Mais nous, on est appelés ton ami. » Alors nous aussi, on peut entrer dans ton intimité et te prier. Vous voyez comment on médite ? Comment on saisit les Écritures ? Méditer, comme le recommande Luther, sur les 10 commandements ou sur le Notre Père. Et vous viendrez rapidement à confesser l'état de votre âme. Et vous réaliserez plus précisément votre besoin de prier. Vos requêtes de prière vont s'harmoniser alors avec la volonté de Dieu. Par exemple, la méditation du Notre Père pourrait conduire nos pensées ainsi. Si j'utilise le premier mot, notre Père, notre. Il nous informe qu'il faut connaître Dieu avec les autres. Il faut connaître Dieu en communauté. C'est pourquoi on fait 1000 heures de prière en église. C'est un projet d'église. On ne compte que les prières que l'on fait avec quelqu'un, en église, pour que l'on puisse dire « notre Père ». Il n'a pas dit « mon Père ». Dites « mon Père ». Non, il a dit « notre Père ». Ça veut vraiment dire qu'il attend qu'on prie les uns avec les autres. Alors, si j'ai compris cela, nous pouvons alors remercier Dieu pour tous ceux qui nous ont aidés à grandir dans la foi et le louer pour cela. Louer Dieu pour la communauté qu'il a créée, les liens d'amour qui sont tissés entre nous. Nous pouvons confesser que nous ne prions pas assez, peut-être avec les autres. Nous pouvons alors prier peut-être pour rechercher plus d'intimité avec d'autres frères, d'autres sœurs dans la foi. Si je poursuis ma prière, ma méditation sur le Notre Père, j'appelle Dieu mon Père. Mais si je me souviens de qui je suis, je serais un usurpateur d'identité si je l'appelais mon père. Sauf que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il a établi, il a fait de moi son enfant. De sorte que, effectivement, et avec foi, avec certitude, je peux l'appeler mon père. Parce qu'il est mon père, alors il prend soin de moi. Il m'aime. Il est attentif, il a du temps pour moi. Comprenez, la méditation de la parole de Dieu, c'est comme les racines d'un arbre. Elle vient puiser dans l'eau de la parole. Et puis l'arbre peut rester vert, prier efficacement et porter du fruit. Mais pour que l'eau de la parole vivifie mon âme, eh bien, il faut que je comprenne la parole. Pas simplement, il faut que je la comprenne. Avec l'intelligence qu'il m'a donnée, avec le cœur qu'il m'a donné. Et peut-être, pour la comprendre, il me faudrait poser quelques bonnes questions. Du style, quel message l'auteur voulait-il faire passer à ses lecteurs? Quel est le rôle de ce texte de la Bible? Comment ce texte de la Bible se rattache-t-il à la grande histoire de la rédemption? Vous avez vu, si vous lisez le psaume 80 et que vous lisez le Fils de l'homme, tu vas susciter le Fils de l'homme. Alors on ne s'éloignera plus de toi. Alors on va revivre. Et alors on va prier. Mais vous ne pouvez pas manquer de rattacher ce psaume à la grande histoire de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, on a besoin de méditer la parole de Dieu en se posant quelques bonnes questions. Ces questions, elles nous aident à méditer. Elles nous préservent de faire des contresens ou des applications inappropriées. Ou qu'est-ce que ce texte m'apprend de Dieu, de son caractère? Qu'est-ce que ce texte m'apprend de la nature humaine, de mon propre cœur? Qu'est-ce qu'il m'apprend de Christ et de son salut, de l'Église ou des hommes de foi? Comment appliquer cette vérité à ma vie? Voilà comment méditer. Y a-t-il un exemple à suivre? Un exemple à éviter? Y a-t-il des commandements à obéir? Des promesses à revendiquer? Des avertissements à prendre en compte? Toutes ces questions-là nous aident à méditer, à repasser les Écritures dans notre cœur. Si nous faisons cela, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, dit la Bible. Quand sa parole demeure dans mon cœur, ma volonté s'accorde à la volonté du Père. On désire ce que Dieu désire. On formule des prières auxquelles Dieu prend plaisir et qu'il va exaucer. Cela vous sera accordé. Ce que Dieu nous accorde, au fond, c'est le fruit. C'est ça le fruit. C'est à ce fruit-là qu'on est reconnu pour être disciple de Christ. J'aimerais relever peut-être juste quelques fruits dans notre passage. Au verset 10, il est dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Voyez-vous, c'est lié. La méditation des Écritures est liée au fait de demeurer dans l'amour de Christ. Quand je demeure dans l'amour de Christ, c'est que je désire ne rien faire qui puisse offenser, affecter ou briser cet amour, cette relation. On ne peut séparer la méditation de la parole de Dieu de l'obéissance à cette parole. Si votre mère vous demande « J'aimerais bien que tu passes le balai et la serpillière dans le séjour. » Vous pouvez méditer sur ce commandement. « Ah, je comprends, maman. Tu veux que je passe la serpillière et le balai ? Parce que depuis la chute, eh bien, tout se salit et se détériore. Et moi, en tant que pécheur, eh bien, je contribue détériorer cette maison. Ah oui, tu veux que je lave pour que la maison soit propre, pour que ça sente bon, pour que toute la famille en profite et se réjouisse, s'y sent à l'aise. Ah, tu veux que je lave pour prendre soin des biens que Dieu m'a donnés, nous a donnés, et ainsi exprimer envers notre Dieu notre reconnaissance. Oui, ah, tu veux maman que je lave pour que les amis qui nous visiteront y passent un moment agréable et puissent aussi glorifier Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Merci maman. Je t'aime. Si vous ne le faites pas, la méditation n'a servi à rien. Remarquez bien que si vous ne le faites pas, votre mère vous aime. Elle vous aime non pas parce que vous avez passé le balai et la serpillière, elle vous aimait avant cela, elle vous aimait avant même votre naissance. Elle a démontré son amour pour vous en souffrant toutes sortes de maux pour vous mettre au monde, en sacrifiant ses jours et ses nuits, en prenant soin de vous jour après jour, en priant pour vous. Elle vous aime. Mais en lui désobéissant, vous ne percevez plus cet amour. Ce n'est pas elle qui a changé. C'est vous. Si vous voulez jouir de cet amour, obéissez. Jude dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Et vous comprenez l'application à faire vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu nous commande quelque chose, ce n'est pas parce qu'on va obéir qu'il va nous aimer. Il nous a aimés de toute éternité. Mais le fait d'aimer, le fait d'obéir, ça me maintient dans l'amour de Dieu. Et je jouis de l'amour de mon Dieu dans ma relation avec lui. Comprenez la chose. Deuxième fruit, il dit ici, ma joie, verset 11, va demeurer en vous. Hein, vous avez remarqué ça. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ma joie soit en vous. Là encore, l'obéissance à sa parole produit une joie profonde. Vous avez déjà goûté à cette joie. C'est pas la joie quand tout va bien, non. C'est la joie quand vous êtes dans une situation difficile, quelque chose d'une tension. Et là, il y a quelque chose qui, dans votre cœur, là, qui vous pousserait à réagir sur la chair, peut-être avec colère, ou avec amertume, ou avec jalousie, ou avec je ne sais quelle autre mauvaise attitude. Et puis, vous êtes là en train de méditer sur l'obéissance de Christ, qui injurié ne rendait pas l'injure, maltraité ne faisait pas de menace. Et puis là, vous vous engagez. Vous vous engagez, vous dites, ça c'est la volonté de Dieu. Alors je vais le faire. Je vais lui obéir. Et vous expérimentez la joie. Ah, une joie intense. Une joie que le monde ne peut pas connaître. C'est la joie, la vraie joie, la joie qui provient de l'obéissance. Vous savez, il n'y a pas plus malheureux que le chrétien qui flanche momentanément dans son obéissance. Alors, il n'aime pas suffisamment le péché hein, pour jouir de ses plaisirs. Mais d'un autre côté, il n'aime pas assez Christ pour savourer la sainteté. Et alors, il tiraillé entre l'un et avec l'autre, il ne jouit ni de l'un ni de l'autre. Et il est malheureux. Mais quand on décide d'obéir à Christ, alors on connaît une joie intense. troisième fruit, c'est l'intimité avec Dieu dans les versets 12 à 14. Il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Une relation approfondie avec Christ, une connaissance de sa volonté, de ses voies. Et cette relation, ce n'est pas quelque chose d'égoïste. Vous savez, ce n'est pas l'intimité avec Christ. Parfois, on pense, c'est tout seul dans mon coin, et puis c'est mon ami, je suis son ami. On a une relation toute particulière, c'est moi et Jésus. Ce n'est pas vraiment ça qu'il est en train de dire ici. Vous avez remarqué comment ça fonctionne ? C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 12, qu'est-ce qu'il nous a commandé ? Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, être dans l'intimité de Jésus-Christ, ça me pousse à aimer mes frères et sœurs, à rechercher la communion avec eux. Mon intimité avec Christ se voit précisément dans le rapport que j'entretiens avec mes frères et sœurs, en particulier avec ceux qui sont ou qui me sont antipathiques, avec ceux qui se plaignent, ceux qui sont immatures, les arrogants ou les stupides. Bon, il n'y en a pas. Mais vous comprenez la chose. C'est mon intimité avec Jésus qui va me permettre d'aimer mes frères et sœurs. Cela. C'est mon intimité dans ma relation avec Christ qui va me permettre d'aimer ces choses-là, ces personnes-là. Et là, je sais que le sarment, il ne peut pas porter de lui-même de fruits s'il n'est pas attaché au cep. Et Jésus a aimé ses amis. Il a aimé ces gens-là, ces frères-là, au point de livrer sa vie en sacrifice pour eux. C'est ça, l'intimité que je vais avoir avec Jésus-Christ. Dernier fruit, ici, qu'on trouve au verset 15, c'est la connaissance de sa volonté. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Une connaissance accrue des Écritures nous est donnée dans cette relation pour que nous sachions comment prier avec foi au nom de Jésus. Vous avez vu, vous avez remarqué comment c'est parfois difficile de savoir ce qu'il faut prier pour telle ou telle personne. Vous avez une situation qui est d'une grande tristesse, une grande souffrance, une grande... Et là, vous êtes... Qu'est-ce que je dois prier, Seigneur ? Et Jésus dit ici, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors vous allez demander les choses, les bonnes choses pour cette personne-là. C'est ça, cette relation d'intimité avec Christ qui me permet de comprendre sa volonté et savoir comment prier pour cette personne. Souvent, nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne demandons pas ce qu'il faudrait. En demeurant en Christ, sa parole nous donne de savoir ce qui convient de demander. Ainsi, on prie davantage avec foi. On prie davantage en nous confiant dans la Seigneurie de Jésus-Christ pour accomplir son œuvre. Dans les situations difficiles que peuvent connaître nos frères et sœurs, que faut-il prier ? Mais il n'y a pas une réponse. La seule réponse est demeurer en Christ et que ses paroles demeurent en nous. Alors, le fruit, ce sera la connaissance de savoir ce qu'il convient de prier.
pour cette personne et de le prier avec foi. Le prier avec cette absolue confiance dans la seigneurie de notre Sauveur pour qu'il accomplisse la chose. Voilà comment porter du fruit. Je ne crois pas que le Seigneur a en particulier des... Je crois que le fruit, c'est ça, en fait. Le fruit, c'est ça. Ce n'est pas des choses spectaculaires. Si toutefois, d'être changé à l'image de Jésus-Christ, ce n'est pas spectaculaire. Non, c'est spectaculaire. Et donc, si nous demeurons en Christ, que ces paroles demeurent en nous, nous allons prier et être exaucés. C'est ça le fruit. Que Dieu nous aide, que nous secoue.